Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 19 mai, il est 8h30, mercredi 19 mai ou le jour de la réouverture des terrasses, ça va faire du bien. Il pourrait avoir les oreilles pointues tellement il essaye d'être à la pointe du son, à la technique, Corto, salut Corto.
Eh bien, bonjour Ben et bonjour à tout le monde.
C'est toi qui te colle à la programmation musicale aujourd'hui avec Hugo, notre cher stagiaire qui a mis un son. Alors, il y a des fois comme ça, quand ça veut pas, mais on s'adapte comme d'hab. Alors, dans un instant, nous retrouverons Tib et Mike qui sont partis en vélo il y a quelques mois. Ils nous raconteront tout ça. Et en deuxième partie d'émission, nous étions allés à L'Encrier, ce nouveau lieu associatif à Florac, avenue Jean Monestier. Il y aura donc de la musique comme d'hab, mais si tu veux bien, Corto, on y va direct. On commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Les terrasses réouvrent et pour l'instant, pas encore besoin du pass sanitaire. L'atteinte nouvelle et inédite que le pass sanitaire est sur le point de causer aux libertés publiques est presque parfaite, tant ce procédé original de contrôle social donne peu prise à la critique. Il n'oblige pas ceux qui ne le souhaitent pas à se faire vacciner. Il serait, à en croire certains des ministres qui, il y a encore un an, considéraient inutile le masque sanitaire sur la voie publique, absolument nécessaire à la lutte contre le Covid-19. Et telle est par exemple l'opinion exprimée le 12 mai dernier sur France Inter par la ministre de la Culture, bien qu'elle eut un sentiment inverse quelques semaines auparavant. On n'est quand même plus à une contradiction près. Il affiche une durée d'usage provisoire de moins de 4 mois, ce qui permettra au passage d'empêcher sa contestation utile devant une juridiction. Il ne concerne pas les déplacements essentiels de la vie quotidienne, de sorte qu'il restera loisible à qui le désire de retrouver les jours heureux en contournant le pass sanitaire exigé pour des rassemblements de plus de 1000 personnes. Bref, au nom de cette inatteignable perfection sanitaire qui nous a fait accepter d'innombrables modalités de contrôle de nos quotidiens depuis mars 2020, le pass sanitaire nous habituera en douceur, progressivement mais sûrement, à montrer patte sanitaire blanche, tout comme nous avons méticuleusement rempli des dizaines d'auto-attestations, y compris pour assurer que la sortie hors du domicile était justifiée pour satisfaire les besoins naturels du chien au bout de la laisse. Le pass sanitaire n'a qu'un seul vice de conception, qui sera peut-être corrigé par les députés et sénateurs d'ici à quelques jours. En effet, en l'état de sa rédaction par l'Assemblée nationale au 11 mai, son champ d'application matériel portant sur, je cite, « l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels » est trop flou. La commission des lois du Sénat a pour sa part souhaité le 19 mai que le pass sanitaire ne puisse être exigé que pour ceux des lieux de grands rassemblements de loisirs ou professionnels qui, en raison de leur configuration ou de la nature des activités qu'ils accueillent, ne permettent d'assurer le respect des gestes barrières. Un rassemblement d'élus à la Genette Verte ? Non, je déconne. Le pass sanitaire en format papier ou numérique, via la fameuse application Tous Anti-Covid, est donc appelé à faire partie du quotidien de toute personne âgée de plus de 11 ans entre le 9 juin et le 30 septembre 2021, dans une version qui reste à affiner par les parlementaires pour tenir compte des remarques contenues dans l'avis favorable rendu en extrême urgence le 12 mai par la CNIL, qui avait été saisie par le gouvernement 8 jours auparavant, sur le caractère imprécis de la disposition votée par les députés quant à la notion de « grand rassemblement, seuil et lieu concernés ». Tel qu'il se présente, avant son éventuelle modification par le Sénat et quoique offrant deux alternatives à la vaccination pour les personnes qui y sont réticentes, le pass sanitaire constitue un coin supplémentaire enfoncé dans ce qui reste de nos libertés publiques et dans la surveillance tous azimuts de la population française. Mais n'a-t-on pas montré, et c'est bien malheureux, notre capacité de résilience ? Allez, les bars réouvrent, une bonne nouvelle dans ce marasme ambiant. On se retrouve dans un instant, on écoute d'abord les Beatles, Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Nous sommes ce matin avec Maë, bonjour.
Bonjour.
Et avec Tib, bonjour.
Salut mon Ben.
Alors, on vous connaît bien ici sur Bartas, ça fait plaisir de vous retrouver. Tib, t'étais chroniqueur dans l'émission Balle au centre et Maë, t'as prêté ta voix à quelques trucs assez sympas dont on se souvient. Et vous revenez d'un périple en vélo. Et comme vous en avez parlé à la presse italienne, il n'y avait pas de raison qu'on n'en parle pas ici à Bartas. Alors, auditeurs, auditrices, si vous nous connaissez un petit peu, vous savez très bien les liens qui nous unissent avec Tib et Maë. Voilà, on est excellemment potes, mais bon, il n'y a pas de copinage aujourd'hui, on va parler de votre voyage. Vous êtes parti le 21 septembre et vous êtes rentré le vendredi 11 décembre. Quel voyage en vélo? Alors Maë, pour les auditeurs et auditrices qui se rendent compte, t'as quel âge?
9 ans.
Alors vous avez fait combien de kilomètres en vélo, vous savez?
2300 bornes.
Waouh, en 3 mois. Alors on va parler du parcours, mais d'abord, Tib, comment s'est venue cette idée d'embarquer ton fils dans cette aventure?
Ça s'est fait petit à petit. En fait, à la base, on devait partir un an, enfin l'année scolaire, en avion, en Asie, cause Covid, comme pour tout le monde, annulé, forcément, frontières fermées, plus d'avions, enfin voilà, on connaît l'histoire. Et on s'est dit, ça va être trop dur de rester un automne à la maison quand t'as un projet comme ça sur l'année, il faut qu'on trouve une autre idée, une autre aventure. Et à la base, on a commencé juste à se dire « Ah, mais ça pourrait être sympa de faire le canal du Midi en vélo, on se fait des petits bivouacs, on dort au bord de l'eau, on pêche, c'est plat, c'est facile. » Voilà, parce qu'il faut bien dire, on n'est pas cycliste pour un sou. À la base, le seul moment où on prenait le vélo, c'était école, maison, 2 km au beau jour, 4 fois par an. Donc, on n'était pas vraiment dans l'exploit sportif de base. Et en fait, l'idée a petit à petit pris de l'ampleur. En fait, on est parti après, on s'est dit, ah, mais il y a le canal latéral de la Garonne, en fait, qui est le même, hein, c'est le grand canal du Midi. Et donc, on s'est dit, allez, partons de Bordeaux, allons jusqu'à Sète. Et puis, à Sète, on s'est dit, mais pourquoi pas tirer jusqu'à Montpellier, Marseille. Et là, c'est à Viarona, en fait, on reste que sur du plat et de la piste cyclable. Donc, c'était cool pour un trip vélo. Maë, qui n'a pas trop l'habitude de la circulation, des peinards. Il n'y a pas de danger. Et puis après, on s'est dit, bon, on est quand même aux portes de la Corse. Le bateau, c'est quand même une aventure. Allez, on va jusqu'en Corse. Et puis après, on s'est dit, bah, la Sardaigne, qui est juste après. Et la Sicile, forcément, avec tous ces volcans et ces terres de feu là, qui nous donnaient vraiment envie. Et on s'est dit, voilà, sur 3 mois, c'est déjà très ambitieux. On va déjà voir ce qu'on peut faire. En sachant qu'après, quand on est passé en Corse, la Sardaigne et la Sicile qu'on n'a pas pu faire, mais qu'on aurait bien aimé. Là, c'est fini les pistes cyclables, il y a du dénivelé. Voilà, c'est une autre façon de voyager. Après, ça, c'est un peu plus...
On va en parler de tout ça, revenir un peu plus en détail. Mais d'abord, on va parler de la préparation. T'as commencé donc à réfléchir ça juste avant l'été, il me semble, ce voyage-là, un peu encore avant.
Ce voyage-là, l'idée a germé, on va dire, début d'été, ouais, mais on a pris la décision finale de ne pas partir en Asie, en fait, que mi-août. Donc, on a vraiment pu s'y projeter et faire la préparation, on va dire, technique, quoi, les vélos, les sacoches, enfin, plein de choses qu'on a besoin pour ce genre de trip. On a dû la faire un peu rapidement, quoi.
Saluons Ophélie qui a préparé un peu vos vélos, hein, qui est un peu itinérante, que tu es allée voir.
Ouais, qui a bien, en fait, qui a changé un peu tout ce que moi je ne m'y connaissais pas trop au début. Bon, c'est sûr qu'après 3 mois, là, on commence à tâter un peu la mécanique vélo. Mais au début, ouais, elle a tout checké, qu'on n'ait pas de grosses surprises mécaniques un peu dangereuses, tu vois, que ce soit les freins, tout ça au début. Pour partir et partir dans de bonnes conditions. T'as plein de trucs à penser. C'était cool qu'elle s'occupe de cette partie-là. Ouais.
Pour ceux qui voudraient faire ce trip-là, donc au-delà du vélo, c'est aussi penser au paquetage, à la remorque, voilà, et se dire, parce que vous trimbaliez combien de kilos, toi combien de kilos et Maé combien de kilos.
Écoute, on s'est pas pesé, je devais le faire en rentrant là pour voir un peu. Maé, je pense que lui, dans le trip, après ça dépend un peu si t'as ton plein d'eau, ton plein de bouffe, et là ça augmente vraiment rapidement. Mais on va dire à plein, c'est-à-dire pour 2 jours d'autonomie en bouffe et en eau, Maé, il devait être aux alentours des, juste en pactage pur, des 15 kilos. Et moi, je pense aux alentours des 50-60 kilos, je pense, voilà, sans compter les vélos, juste en bagage, quoi.
Ouais, c'est pas mal, hein.
Moi, ouais.
J'ai assisté au départ, c'était assez intéressant quand même, ça tanguait pas mal.
Ouais.
Maé, est-ce que quand ton père t'a parlé de cette aventure, tu t'attendais à ce que t'allais vivre là ?
Non, pas du tout, pas du tout.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ?
Bah, c'est qu'à un moment, il m'a dit... Ah bah, tu sais, il y a la Sicile ici, on peut revenir en bateau, train, on pourra revenir en France, ça va être trop bien. Et puis là-bas, il y a les volcans en éruption, ça va être trop bien, mais bon, on n'a pas pu le faire.
Et non, puisque la Sicile est en zone rouge et se confiner là-bas, ça aurait quand même pas été simple.
Non.
Et c'est quoi ton plus beau souvenir sur tout ce voyage ?
C'est quand on a fait 2 journées off dans une... Sur une plage paradisiaque et que juste après on a rencontré des gens trop sympas qui nous a invités à manger. On a mangé le soir et ils sont partis le matin. On voulait faire l'Espagne, une partie de l'Espagne sur... c'était quoi déjà ?
En fait, c'était deux marins qu'on a rencontrés qui partaient en Espagne avec leur voilier. Et ils étaient vraiment trop cool. Et vu que nous, on avait déjà fait la totalité de notre trip, qu'on était juste sur le retour en relongeant la côte sarde pour remonter chez nous, on s'était dit pourquoi pas partir avec eux. Ils allaient au Baléares. Et sauf que les vents étaient bons pour le matin. Ils sont partis très tôt et on n'a pas pu leur demander.
Raté,
bon. Raté. Mais bon, ce qui nous attendait derrière était fou aussi. Donc, c'est ça le voyage, quoi. C'est que ça peut partir dans n'importe quel sens. Et c'était une belle rencontre.
Pour les bivouacs, jamais de galère, parce que à signaler, bon voilà, ça se dit, hein, vous faisiez camping sauvage, quoi.
Tout le temps du camping sauvage. L'avantage, c'est qu'on est hors saison, donc on est en pleine saison touristique. Je pense que ce qu'on fait là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc hors saison, ça passe. Bon, c'est sûr que les conditions météo, elles sont différentes. On n'est pas sur des températures estivales. Voilà, ça caille un peu plus, c'est plus humide. Mais en même temps, il n'y a personne, donc ça te permet... Et ben de vraiment te poser un peu où tu veux, dans le respect des règles simples, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà, tu te poses. Au bout d'un moment, tu sais quand même où tu peux te poser sans gêner, sans déranger. Et on n'a pas été. On a été embêté une petite fois, mais on le savait, c'était dans un endroit. Il y avait une barrière qui était couchée par terre en Sardaigne. C'était impossible de se poser autour. Il faisait nuit. Je me suis dit, voilà, là, on n'a pas le choix, on va là. Et le gars a un petit peu gueulé parce qu'on était sur son terrain. Mais enfin, je veux dire, voilà, il nous a juste dit c'est un terrain privé. Bah oui, on le savait, mais on est arrivé tard le soir. Ok, bah merci de partir. Oui, on part. Le lendemain matin, donc on a fait notre nuit. Mais c'est, voilà, c'est le seul petit incident qu'il y a eu. Sinon, tous nos bivouacs se sont super bien passés. Et on va dire, on a eu de la chance de par l'itinéraire, très certainement, mais dans 95% des cas, dans des endroits paradisiaques, quoi.
Et il y a une espèce d'idée reçue sur la Corse, en fait, où justement, camping sauvage est compliqué, les Corses sont très attachés, etc. Mais vous, il n'y a pas eu de soucis, quoi.
Non, on a... dès le premier bivouac, j'ai quand même fait très attention. On est en Corse, tu le sais. Dans le bateau, déjà, t'as des affiches, en fait. Alors, c'est surtout pour les camping-cars, je pense, parce que nous, le camping sauvage, quand t'as une petite tente de bivouac très discrète, que t'es en vélo, c'est pas vraiment le public, je pense, qui dérange en camping sauvage. T'sais, c'est plus les camping-cars quand ils arrivent par centaines sur l'île en été. Et du coup, ce qu'ils mettaient sur le bateau, c'est... la Corse, en Corse, la nature est sauvage, pas le camping. Donc ça plante le décor déjà avant d'arriver. Mais bon, et sur cette photo-là, t'avais un camping-car. Donc en fait, non, on n'a pas été emmerdé en Corse en faisant certainement aussi plus attention que sur le continent. Et après, en Sardaigne, aucun souci. Mais voilà, c'est plus grand la Sardaigne et c'est pas la même mentalité. Tu te sens accueilli, les gens sont contents que tu sois là. En Corse, on va dire que c'est ni l'un ni l'autre, mais là, quand on est passé en Sardaigne, on a senti vraiment ce côté heureux qu'on vienne en vélo, de voir un enfant qui fait ça. Il y avait vraiment une bonne énergie là-bas, donc ouais, il n'y a eu aucun problème pour le camping sauvage.
Maë, est-ce que tu te souviens la pire fois où tu as galéré?
Ça, c'était en Corse, une grosse montée.
Il pleuvait comme c'est pas permis.
Et on n'a pas pu monter, même papa il montait à pied. Bon, après la galère amène quand même des rencontres. Après, on a rencontré des gens trop sympas qui nous ont invités à dormir. Et on a dormi 2 jours parce que le lendemain il pleuvait encore. Et on est reparti et c'était que de la descente après. C'était cool.
J'imagine, vous êtes père et fils, hein, évidemment, vous vous entendez pour vous connaître extrêmement bien, mais bon, vous êtes à deux sur des vélos, tout le temps, 24 heures sur 24. Maë, ça a été avec ton père?
Moyen, on s'est quand même bien engueulé.
Ouais, et puis en plus, émotionnellement, c'est compliqué. Enfin, tu vois, il y a l'effort, et dans l'effort, du coup, la psychologie, elle joue énormément, et donc, du coup, t'es fatigué. Voilà, c'est des longues journées souvent où tu pédales pour aller d'un point A à un point B sans vraiment qu'il y ait d'objectif, mais c'est quand même cool d'avancer et des fois tu te fais surprendre par des gros dénivelés, tout ça, surtout voilà, deuxième partie du voyage. Et donc forcément, la fatigue, plus l'effort, plus tout ça, bon, y avait de l'ambiance, quoi. tu vois, c'était... Voilà, mais après ça apprend aussi à mieux se connaître, quoi, tu vois. Enfin, si c'était tout... platonique, ça aurait pas été normal, enfin, ça aurait été étonnant.
Ouais, c'est ça, c'est tout un panel d'émotions par lesquelles tu passes.
Fort, en tout cas, ouais.
Et est-ce que vous vous êtes dit une fois, l'un ou l'autre, il y en a marre, on rentre?
Moi, non.
Oui.
Le problème, c'est qu'il devait rentrer seul en vélo, donc généralement, il me suivait.
Mais Maë, bravo, je suis très admiratif, hein, t'as dû dépasser tes limites pour réussir... ce périple.
Oui.
Où est-ce que t'allais chercher l'énergie?
Je sais pas. J'ai puisé. Je sais pas où.
Là où il y en avait, mais apparemment, il sait pas encore laquelle case il a dû ouvrir pour continuer.
Et toi, ton plus beau souvenir du voyage?
Oh, putain. Ça, c'est vraiment pas facile. Enfin, si tu veux, moi, les beaux souvenirs, il y en a plein, j'ai du mal à les classer, c'est tellement de petits, c'est le voyage en lui-même mon plus beau souvenir, parce que après c'est mille moments avec Maë où tu vois ses émotions fortes, elles sont basses, on s'engueule, mais elles sont aussi énormément fortes. Genre je m'en souviens une, c'est quand on est arrivé, même plusieurs, la première étape c'est quand on a vu la mer Méditerranée, on est quand même parti de l'Atlantique, on arrive sur la mer Méditerranée et tu poses ton vélo, tu arrives sur la plage, tu sais c'est la fin parce qu'il y a la mer, parce que tu peux aller plus loin, c'est le sable et l'eau. Et là on s'est mis à gueuler, à serrer dans les bras, c'est un moment d'euphorie, tu vois, tu dis on l'a fait et t'oublies toutes ces galères après quand t'arrives à ces challenges là. Après, moi, je crois que c'est vraiment les étapes du voyage que j'aime bien. Après, quand on prend le bateau pour aller sur l'île, tu vois. Et après, on a enchaîné 1000 plages paradisiaques. Donc, des beaux moments, c'est difficile de les classer.
Puis des jolies rencontres, comme le disait Maë tout à l'heure.
Et voilà. Et en plus, les rencontres, elles se font. Et, on l'a vu dans le voyage. Souvent, quand tu galères, quand tout va bien, t'as pas besoin spécialement d'aller vers les autres parce que t'es autonome, tu fais tes petits trucs, voilà. Mais quand tu commences à vraiment galérer et qu'il faut te sécher et que voilà, tu peux pas rester dehors, c'est là que tu es obligé d'aller vers les gens et que tu te rends compte que du moment que tu vas vers les gens t'ouvrent la porte. Par contre, il faut faire l'effort d'y aller. Mais à aucun moment on nous a fermé une porte. Donc les rencontres après sont folles et elles sont atypiques parce que le parcours est atypique, ils t'accueillent dans des conditions atypiques, donc c'est génial quoi.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, à un auditeur, une auditrice qui nous écoute et qui a envie de faire ce périple, quel conseil tu donnerais?
De le faire. Non mais de se motiver, tu vois, nous on l'a fait sans aucune expérience au préalable, sans aucune préparation physique non plus. Le but c'est déjà de se dire c'est faisable, d'y aller petit à petit. Au début, tu vois, pour donner un ordre d'idée, on attaquait par des étapes de 20 km sans dénivelé, ce qui est vraiment facile en vélo. Enfin, il n'y a pas besoin d'être... avec aucune condition, ça passe. Et petit à petit, en fait, tu fais de plus en plus de bornes, mais sans le réfléchir, en fait. C'est ton corps qui, lui, par lui-même, va un peu plus vite, un peu plus longtemps. Et pareil, s'il te manque des trucs au début, tu le sais rapidement. Donc, on va dire, tu as une semaine pour te mettre en jambes, racheter des choses. Donc, si tu attaques un périple, c'est bien de le faire... par des étapes simples où il y a des ravitaillements faciles, et puis en une semaine t'arrives à te dire ok c'est bon, là je peux partir 15 jours, 1 mois, 3 mois.
Maë, qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant le voyage?
Les copains et maman, c'est ça qui m'a vraiment le plus manqué. Voilà, ça m'a vraiment manqué, sinon c'était parfait. Il manquait juste les copains et maman.
Pour te dire que ta mère est très fière de toi, sans nul doute, comme ton père, de toute façon, je veux dire, c'est ça le sentiment que tu as envers ton fils après ces 3 mois passés.
Ah bah ouais, c'est clairement d'avoir partagé quelque chose que peu de gens ont la chance de partager. Je remercie sa mère, clairement, qui nous a permis de faire ce trip, que ça aurait été impossible sans son accord et sans qu'elle soit là, présente. On avait fait un petit groupe WhatsApp, tu vois, pour dire où est-ce qu'on en était, enfin normal, quoi, donner des nouvelles... Et du coup, elle mettait toujours sa petite patte de bonne énergie, de bienveillante. Donc ça a été très très important pour Maë et pour moi aussi, pour assumer ce genre de délire. Et donc voilà, ouais, c'était. Ouais, je suis très fier forcément de l'avoir fait, parce qu'au début tu planifies ça, tu dis bon, c'est la chose la plus folle qu'on peut faire, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ou pas, sans objectif réel. Quand tu l'as fait et que tu rentres, tu te regardes, tu fais. On l'a fait quoi.
On est obligé, entre guillemets, obligé, non, on est obligé de rien, mais quand même, on va parler de la déscolarisation de Maë, puisque tu as dû le faire évidemment, l'école est obligatoire. Comment ça s'est passé? Et est-ce que vous avez fait des devoirs? Enfin, comment ça s'est passé par rapport à sa scolarisation?
En fait, c'est simple. En fait, c'est un papier que t'envoies à l'académie. Au début, sa maîtresse m'avait dit tu peux peut-être demander une absence de 3 mois ou une déscolarisation, ce qui pour moi était exactement la même chose, mais. Une absence, c'était peut-être plus facile pour réintégrer sans faire moins de paperasse derrière. Enfin, mais l'absence a été refusée, donc c'était une déscolarisation. Mais je te dis, c'est un papier envoyé. J'ai pas eu de réponse d'ailleurs, hein. J'ai juste envoyé le papier pour leur signaler qu'ils seraient plus à l'école. Et après, écoute, ça a été quelques heures par semaine, mais c'est pas énorme en fait. Quand tu vois que quand tu t'occupes en cours particulier de ton enfant, c'est intégré très rapidement en fait les principes de la scolarité. Après, ce qu'il n'y a pas tout autour, c'est l'interaction avec tous les copains, c'est tous les ateliers certainement que l'école met en place. Mais bon, nous, on a le voyage, donc ça permet une autre interaction, ça complète ce que fait l'école. Et en gros, on était sur, 3-4 heures par semaine d'école, on va dire, tu vois. Mais après, bon, y a plein de principes au cours du voyage, que tu vois, ils calculent ses kilomètres, à combien de kilomètres on va, enfin, tu fais...
Ouais, dans la pratique, la scolarité se fait là aussi.
Continue aussi, ouais.
Et t'as reçu un dernier papier de l'académie pour un contrôle, un truc comme ça?
Ouais, j'en ai reçu un. Alors, quand est-ce que je l'ai reçu, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu là dans la boîte aux lettres. Et pour un contrôle, le mi-janvier, mais vu que Maë va retourner à l'école, il faut que je prenne le temps de leur dire, contrôle, oui, pas de problème, il sera à l'école en tout cas. Donc je vais voir avec eux, mais en gros, ouais, t'as un contrôle au bout de 6 mois apparemment qui vient voir si les bases sont acquises, ce qui est bien, je pense. Enfin.
Maë, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais?
Ouais, mais pas dans les mêmes endroits, il faudrait qu'on fasse autre chose.
Alors justement, ce qui nous permet d'arriver à la question, hein. Tib, t'as un projet pour septembre 2021, évidemment, puisque t'as croqué dans la pomme et tu peux plus t'en passer.
Ouais, ben en fait, pour 2021, on devait on avait repoussé notre voyage en Asie et en avion. Mais je cherchais un fil conducteur, pareil. Donc là, je vais redéscolariser Maé pendant une année. En fait, je fais ça avant le collège parce que c'est plus simple. Après le collège, bon,
on verra. Et puis, t'as pas le niveau pour lui donner les cours.
Ouais, c'est compliqué d'être professeur de maths, des machins, des trucs. Non, j'ai le bac, donc je peux dire, je suis prêt à tout. Mais mais c'était plus facile. Voilà. Et puis, CM2, je crois que c'est la fin d'un cycle. Enfin, c'est vraiment une année, en ayant discuté avec les instits, que tu peux faire péter un peu plus facilement, quoi, où il y a moins de choses à apprendre. Et donc du coup on devait juste repousser ce voyage, mais voilà, il manquait un petit fil conducteur pour que ça soit c'est bien de faire un voyage touristique, mais il faut qu'il y ait un intérêt, tu vois, pour Maé, culturel, plein de choses, quoi, un thème. Et en fait, ce voyage nous a quand même changé sur la façon de voir le voyage. Le vélo, c'est un outil formidable pour voyager parce qu'il est lent. On va dire, tu vois tous les changements de paysage, les changements de mentalité, tout change lentement, mais tu avances assez rapidement sur une carte, jour après jour. C'est-à-dire que quand tu fais 50-60 bornes par jour, en 10 jours, tu as fait 500 bornes. Et donc, on s'est dit, écoute, pourquoi pas mettre à profit les rencontres qu'on a fait. On a rencontré une famille avec deux enfants qui, eux, sont partis pendant 6 mois et qui étaient en vélo électrique, en autonomie électrique avec des panneaux solaires. Et c'est impossible de faire autrement vu le pactage qu'ils avaient et leurs deux enfants. Et c'est génial parce qu'ils ont réussi à trouver une solution là où moi je me disais, mais comment on peut faire quand on a plus d'enfants et pas en l'âge comme Maé de pédaler. Et donc on s'est dit, c'est génial leur délire, et on a inventé le nôtre là, qu'on est en train de petit à petit de mettre sur papier.
Sur roue, quoi.
Sur roue, papier. Et en fait, ça serait de partir donc pendant 8 mois. En autonomie énergétique et en autonomie aussi, donc bivouac, de partir d'Ushuaïa, donc là, l'Amérique du Sud, et de traverser toute l'Amérique du Sud, donc ce qui nous permettrait quand même avec une assistance électrique, surtout à l'âge de Maé, c'est très important parce que c'est des efforts normalement qu'il faudrait pas faire sans assistance électrique, clairement, et d'avoir un pactage conséquent pour être à l'aise pour ce long voyage, et tout en même temps en étant en extérieur, en faisant du vélo, quoi. Donc je te disais, donc continuer à aller assez doucement pour profiter du changement de ces paysages et de se rendre compte que l'immensité, tu vois, que tu traverses, et d'arriver jusqu'aux Caraïbes. Et après le trip, ça serait vraiment de prendre un voilier, de trouver quelqu'un qui veut bien nous prendre, on a 1 an et demi pour trouver, et qu'on se fasse la traversée jusqu'en France, rentrer en voilier en France, donc partir d'Ushuaïa et rentrer jusqu'à Florac sans assistance motorisée, on va dire, mais d'avion, de voiture, de bus. Enfin voilà, le trip, ça serait ça pour l'instant, après avoir tout ce qu'on y met dedans, quoi.
Et on fera tout pour être partenaire, nous, au niveau de Bartas, hein, pour vous aider dans ce projet. Et puis pour que, auditeurs, auditrices, vous ayez aussi de temps en temps des petites capsules sonores qui nous viennent d'Amérique du Sud. On est en train de mettre ça sur pied tout doucement.
Ouais, le but, c'est vraiment celui-là. J'aimerais qu'on le partage plus, qu'il y ait vraiment un but de dire encore plus, comme on le fait là à la radio, c'est possible, on peut. Voilà les éléments techniques pour y arriver. Voilà, Maé, moi, il adore faire de la photo, des montages photos, donc pourquoi créer un petit film. Et voilà, et le partager, en fait, que ça reste pas juste pour nous, et que ceux que ça intéresse, que ça fait rêver, et bah, qu'ils puissent le vivre en même temps, quoi.
L'affaire, ce sera l'année prochaine, et on a hâte, entre guillemets, d'y être. Il va se passer plein de choses avant. Merci Maé, et bravo.
Merci.
Et merci beaucoup Tim.
Mais de rien.
Et bravo aussi, bravo pour votre 2003,
il disait Maé, c'est lui qui avait le compteur, hein, c'est lui qui a géré tout ça, ouais.
2300 kilomètres, à bientôt les amis, ciao.
Salut.
Salut.
On se retrouve dans un instant, on part à L'Encrier, ce nouveau lieu associatif à Florac. On écoute d'abord Brassens, Les Sabots d'Hélène.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées. Et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée et dans le cœur de la pauvre Hélène qui avait jamais chanté. Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine et moi je l'ai gardé.
Eh bien bonjour.
Bonjour.
Ça fait plaisir de voir un nouveau lieu comme ça, plein de lumière.
Oh, lumineux, le soleil rentre, c'est génial, c'est génial. On en rêvait depuis longtemps.
C'est sûr que ça vous change des deux autres lieux qu'il y avait.
Qui étaient chaleureux parce que ça faisait vraiment la maison commune, on se sentait vraiment à la maison et ça c'était chouette quoi.
Ouais. Mais là, il y a vraiment de l'espace, c'est lumineux. Alors, on est avenue Jean Monestier pour l'ouverture de l'Encrier.
Oui.
Pourquoi l'Encrier ?
L'Encrier, parce que la plus petite partie de la maison, derrière la fontaine, ça ressemble un peu à la proue d'un bateau.
Excellent.
Et au départ, j'avais dit, oh tiens, la proue, on pourrait l'appeler la proue. Tu vois, la proue. Et puis après, la proue, l'encre. Et après l'encrier, eh bien évidemment parce qu'on écrit, parce qu'on lit l'encrier.
C'est ça.
Et on s'ancre, parce que l'encrier avec un A.
Il va se passer énormément de choses ici, c'est ce qui est prévu.
Beaucoup de choses.
Comment ça va un peu s'organiser tout ça ?
Ça va s'organiser avec des jours de permanence, donc les jeudis, vendredis, samedi. Mais s'il y a des gens qui veulent faire des activités différentes, tout est possible, de la musique, des contes, passer des films. Ça peut être n'importe quel jour de la semaine, avec un calendrier de présence, de bénévoles, etc.
Et donc, il faut dire aussi que c'est une ancienne librairie. C'est normal d'y retrouver des livres.
Voilà. Et en plus, la personne qui était là avant nous a laissé des étagères et plein de bouquins qu'on a rachetés. Ce qui fait que ça commence à être bien étoffé en littérature. Voilà, donc il y a une littérature qui peut être livre d'occasion à prix libre. Voilà. Il y a ici des livres pour emprunter, mais que l'on ramène. Et il y a certains bouquins qu'on consulte sur place.
Et c'est ça. Il y aura aussi, si j'ai bien compris, un centre de documentation, c'est ça ?
Centre de documentation, c'est peut-être... Jean-Marie qui va parler.
Merci Eliane.
Avec plaisir.
Bonjour.
Bonjour. Oui, oui, concernant les livres dans l'endroit où on est là, c'est le fonds documentaire. Et donc, c'est géré par l'association Savoir en Chantier. Et l'idée, c'est de se constituer justement un fonds documentaire en lien avec les objectifs de l'association, c'est-à-dire les connaissances théoriques, les connaissances pratiques, etc. Et le principe, ce qu'on va essayer de mettre en œuvre, c'est déjà commencé, on va essayer de mutualiser des livres et essentiellement des livres, mais qui sont en possession des sympathisants et des membres de l'association. Et donc, on va essayer de se prêter les livres. Et donc, il y aura deux solutions. Soit on les apporte au local ici, et à ce moment-là, les gens qui passent peuvent les emprunter directement ici. Et soit on va demander aux gens de nous dire les livres de leur bibliothèque qu'ils veulent bien prêter. On va se charger de faire l'information auprès des membres. Et à ce moment-là, les gens feront un emprunt de personne à personne.
Et voilà. Ce sera sur des sujets bien particuliers ?
Oui, c'est quand même sur des sujets d'écologie politique, sociale, et des questions pratiques aussi, d'écologie pratique, etc. C'est un peu pour cerner le sujet, parce qu'il faut dire que c'est aussi en lien avec la préfiguration de l'université rurale des Cévennes. Et en fait, Savoir à Chantier, c'est le groupe local de Florac, concernant l'université rurale, qui s'est constituée en association. Et voilà, c'est ça l'idée.
Et justement, en parlant de ces universités rurales, elles vont revenir ici dans ce lieu, comment ça se...
Elles n'ont jamais quitté nos préoccupations, puisqu'en fait, on s'est organisé en association, mais au préalable, déjà, on était organisé en groupe de travail, en groupe de centres d'intérêt, en groupe thématique, avec notamment, il y en a un qui est bien avancé, c'est le groupe agriculture-alimentation. Et donc, il y en a d'autres sur d'autres thématiques qui sont affichées là-bas, d'ailleurs, hein, travail, revenus d'existence, etc., énergie. On a vu un peu les... Ah oui, oui, ben, s'il y a aussi jardin, il y a le jardin. Il y avait la thématique de l'eau qui devait faire l'objet, d'ailleurs, de plusieurs conférences à l'automne dernier, des conférences qui ont été annulées pour les raisons qu'on connaît. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement les activités continuent avec des difficultés et ne demandent qu'à s'amplifier, qu'à augmenter, hein, parce que on pense organiser des animations très fréquentes, le plus fréquentes possible, à condition qu'on puisse les tenir, et en particulier des conférences, des choses où on discute. Pour revenir au livre, ça peut être discuter autour d'un livre, discuter autour d'un article, discuter, présenter un livre qu'on aime bien et dire pourquoi, et que tout le monde fasse la même chose. Voilà, des choses comme ça.
Vous avez fait une réunion, si j'ai bien compris, samedi 27 mars, c'est ça ?
Oui.
C'était samedi dernier ?
Oui, samedi dernier.
Qu'est-ce qui s'y est dit à cette réunion ? Vous étiez quand même une vingtaine, si j'ai bien compris, donc déjà...
Un peu moins, je pense.
Un peu moins, allez, à la louche.
Eh bien, en fait, c'était la réunion où on devait voir, mesurer nos forces en matière de bénévoles susceptibles d'assurer les permanences, d'une part. Et comme à plusieurs reprises aussi, il y avait eu, on disait à chaque fois que actuellement on est l'association, enfin le projet de l'Encrier, c'est ça s'est porté essentiellement au départ par la maison commune et par Savoir en Chantier, mais que toutes les initiatives, les envies, tout ça seraient les bienvenues. Et donc on a vu les gens qui dans un premier temps étaient d'accord pour faire les permanences, tout ça, mais on a vu avec plaisir aussi que le local et la dynamique qui s'y développe, ça intéressait aussi d'autres associations, et ça on s'en réjouit et on espère que ça va encore continuer, quoi. Voilà.
Alors la question, on va y passer quand même, hein, ça représente un coût, ce local.
Oui.
Donc alors sans savoir combien, puisque c'est pas très important, mais comment vous, Savoir en Chantier, la maison commune, allez supporter ce coût-là ?
Alors disons que quand il s'est agi qu'il y a eu l'opportunité de louer le local, évidemment, la question du loyer, c'était une question vitale. Et du coup, on a alerté tout le monde en leur disant qu'il y avait cette opportunité, que ça coûtait des sous, et on a fait un appel à dons, en clair. Hein. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré, parce qu'il nous a semblé que d'après la réaction des gens, c'était jouable. Alors c'est toujours fragile parce que c'est quand même cher pour, pour des associations qui n'ont pour l'instant aucune ressource autre que, que les dons de, des membres, et, etc. Mais bon, je pense que ça va, ça marche, ça va marcher.
On vous le souhaite. Et là, s'il y a des auditeurs, auditrices, il y a toujours la possibilité de faire un don, de venir.
Ah, mais c'est même, oui, c'est, ce sera une constante, je pense, aussi longtemps que ça fonctionnera. Oui, oui. Bon, après, il y aura quand même quelques ressources avec le café culturel et associatif. Donc là, on pourra un petit peu récupérer des sous quand on fera des animations ou autre. On pourra toujours mettre un chapeau pour que les gens mettent quelque chose, mais encore faudra-t-il qu'on ait la possibilité de faire les choses.
Ça va revenir, c'est sûr.
Oui, oui, voilà, c'est ça.
Eh bien, merci beaucoup.
Voilà, avec plaisir.
Du mot, Marie-Hélène. Déjà, j'ai envie de dire que c'est je ne sais pas si le mot est trop fort, mais c'est un petit rêve qui se réalise quand même, pour Savoir en Chantier et pour la Maison Commune.
Ouais, c'est un peu... le chemin continue, on va dire. Je ne dirais pas que c'est un aboutissement, parce que je ne sais pas ce que c'est un aboutissement, mais en tous les cas, oui, c'était quand même quelque chose... la Maison Commune doit bientôt avoir 5 ans, et c'était une grande histoire, et longue histoire, mouvementée. Et pour nous, c'est un petit peu, oui, quelque chose qui se précise, quoi, qui est plus... Voilà, et on savait aussi plus précisément ce qu'on voulait pas maintenant, et tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, je trouve que... Ouvrir des lieux, c'est magique, voilà, ouvrir un lieu. Dire aux gens, c'est juste ouvert, c'est pour vous. Après, c'est pas évident, parce que les gens n'ont pas l'habitude, ils ont plus l'habitude de consommer, d'aller à des heures précises, à machin, etc. Là, quand on leur dit, allez-y, venez, proposez, c'est pas si facile. On se rend compte que c'est pas, mais c'est le pari.
Et c'est aussi, parce que ça, faut vraiment le préciser, hein, c'est pas, entre guillemets, le mot est fort, pareil que rêve, hein, un monopole de Savoir en Chantier et
mais
de
non, mais
la
non.
Maison Commune, tout le monde peut venir.
On ouvre un lieu ouvert à tout le monde. Alors bien sûr, il y a deux animations qui le co-gèrent et qui le co-animent, parce que ça c'est bien, ça nous a permis d'avoir plus d'énergie, plus de monde, et puis aussi des activités déjà un petit peu construites, mais bien entendu, c'est totalement ouvert, et moi, dans mon idéal, dans mon rêve, ce serait que ce soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand même. Je veux dire, voilà, que les gens puissent faire des trucs, alors peut-être pas de nuit, parce qu'ici on est quand même en ville, et tout ça, il y a peut-être un peu des contraintes, mais enfin, dans tous les cas, voilà. Après, on peut pas tout faire, parce que les lieux, ils sont organisés d'une certaine manière, je pense qu'ici, ça a beaucoup quand même fait pour des activités plus d'ordre culturel ou des ateliers même pratiques, mais qui ne s'adissent pas trop, qui ne sont pas trop... Voilà, on est dans un lieu où il y a... Mais enfin, il y a quand même déjà beaucoup de possibilités. Là, on a des propositions de faire les plateaux, par exemple, de Bartas ou Télédrive, mais également de répétitions de musique, mais également de danse, mais également des trucs pour les enfants, puisqu'on a aménagé un coin enfant, parce que ça, dans la Maison Commune, on a toujours tenu à avoir un coin enfant. C'est... Voilà. Et voilà. Et donc, voilà. Là, le seul problème, c'est qu'on commence un 1er avril, c'était un peu une blague, c'était un petit peu un clin d'œil. Et c'est vrai que c'est un peu une blague, parce qu'on peut commencer un peu à minima, puisque là, bon, voilà. Donc, on tient bon, on se dit que le café va pouvoir ouvrir, et que, parce que pouvoir boire et manger, c'est quand même fondamental pour les gens, quoi. Donc, ça, c'est, voilà.
Une information peut-être importante, puisqu'on a appris hier cette nouvelle à laquelle on s'attendait, qu'on est confiné. Hein. Est-ce que le café, enfin pas le café, parce que ça c'est sûr que comme c'est indiqué, il sera pas ouvert, est-ce que la Maison Commune va rester ouverte ?
Eh bien, a priori, on peut rester ouvert, ça, selon mes informations, parce qu'on vend des livres, qui est un produit essentiel, et qu'on prête des livres et que les bibliothèques sont ouvertes. Donc, nous pensons, on n'a pas eu d'informations complémentaires, qu'ouvrir ces parties-là, c'est bon. Après, on peut faire des petites réunions, mais pas trop nombreux. Normalement, bon, selon mes informations, on peut être 12 dans le local. Donc, ce qui est déjà pas mal pour faire des réunions, par exemple, de Savoir en Chantier, voilà, pour démarrer, ça va être ça. Mais pour moi, c'est important que ce lieu soit ouvert, parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins que des lieux soient ouverts dans Florac, que les gens puissent venir se poser un moment, voilà. On va ici. On espère qu'on va pas nous faire fermer.
Voilà. Et la dernière petite question, peut-être, c'est là, à court terme, les prochaines réunions, là, de quoi il va être question ? Est-ce que vous avez déjà une petite idée ?
Oui, il y a le groupe donc, de Savoir en Chantier d'atelier autour de la démocratie qui se réunit samedi, je crois, ou le samedi suivant, je me souviens plus exactement, enfin très prochainement. Il va y avoir l'info, là, voilà. Voilà, et puis il y a le groupe Autonomie alimentaire qui avance et qui donc a prévu aussi une réunion. Alors là, je crois que c'est début mai. On a une réunion le 8 mai, je crois. Voilà. Bon, ça, c'est les prochains groupes. Et puis, il y a le groupe Travail, Revenu d'existence qui va débuter aussi. On n'a pas encore la date précise, mais voilà, ça, c'est les trois groupes qui sont en cours. Et disons que c'est des groupes assez faciles parce qu'on peut les. Bon, voilà, on peut commencer à se voir entre nous. On a déjà un peu de truc. Mais bien entendu, notre objectif, c'est quand même d'après, d'inviter des personnes pour qu'ils viennent. Voilà, mais là, aujourd'hui, encore une fois, c'est pas possible. Mais voilà. Donc, voilà, il y a quand même déjà des idées et puis certainement des activités qui vont démarrer assez rapidement.
Et nous, en tout cas, on vous remercie puisque vous nous ouvrez vos portes pour notre plateau pour l'émission Drail et Bartas.
Moi, j'ai trouvé ça trop chouette parce que voilà, je pense qu'il y a un lieu qui va bien pour ce type de choses. Et puis, l'idée quand même dès le départ, dès qu'on a souhaité avoir ce lieu, c'était vraiment d'avoir le plus possible de partenariat entre guillemets, pas tellement formel, on n'est pas tellement de formalisme, mais de avec plein d'autres gens, d'être ouvert quoi. En fait. Vraiment, parce que ça a été peut-être notre défaut. On a à un moment donné peut-être qu'on était un peu trop fermé et que donc voilà, mais ça c'est un peu la tendance humaine. Et donc voilà, on se rouvre.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Au niveau actuel, L'Encrier ouvre demain le Café Grignotte, donc jeudi en terrasse. Il y aura bien sûr l'activité de la librairie qui se poursuit. Alors à 14h jeudi, il y a une après-midi jeu avec Laurence et Fanfan. Et mardi prochain, il y aura la projection du film Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine. C'est d'actu, réalisé par Roland Nureyer. Voilà pour ce qui se passe à L'Encrier. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi prochain. Et oui, lundi, c'est férié. J'espère que vous allez profiter des terrasses. Nous, en tout cas, on va pas se priver. Merci à toutes et tous de nous suivre. Prenez soin de vous. Merci, Corto.
À ton service, hein, comme d'hab.
Avec plaisir. Du coup, t'as programmé les deux premiers morceaux. Hugo, notre stagiaire, a programmé le dernier. Il a choisi The Black Keys, Shine a Little Light. À mercredi prochain. Prenez soin de vous. Ciao. Yeah.